Bon, encore une vidéo où je vais me plaindre. Me plaindre de quoi? Me plaindre de l'intelligence artificielle. Parce que j'ai commencé à fouiller sur Internet et que j'ai eu de la difficulté à trouver des exemples de films où Hollywood a utilisé l'IA. Ben, bizarrement, ils s'en vantent pas trop d'utiliser l'IA. J'ai quand même trouvé des exemples. Et ça a poussé mon raisonnement plus loin. Oui, je le sais, il faut que j'arrête de faire ça. Faut que j'arrête de commencer à essayer de raisonner parce que ça m'aide pas. Et là, je vous dis tout de suite, en regardant la vidéo qui s'en vient, vous risquez d'avoir plus de questions à la fin que de réponses. Parce que c'est la vie. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui à dimanche navet, parce que croyez-moi, l'IA, ça va en faire des navets. L'intelligence artificielle et Hollywood, l'avenir est à vomir. Et l'avenir, ça commence maintenant. Déjà, je veux commencer à parler d'un mot, générative. Oui, parce que l'intelligence artificielle qu'ils utilisent maintenant, c'est de l'intelligence artificielle qu'ils appellent l'intelligence artificielle générative. Et ça, c'est un mot qui peut porter à confusion parce que ça peut donner l'illusion au monde que ça génère quelque chose, que ça crée. Et ça, c'est pas tout à fait juste. L'intelligence artificielle, telle qu'on la connaît présentement, s'inspire de ce que nous, êtres humains, faisons pour créer des choses. Parce que l'intelligence générative, ça crée beaucoup de caca, OK? Mais ça s'inspire du caca des autres pour créer ce caca-là.
Caca!
Donc, de là à dire que ça crée quelque chose, moi, j'ai un problème avec ça. C'est plus de l'intelligence inspirative. Oui, ça prend l'inspiration et le talent des autres, ça le siphonne et ça te ressort quelque chose. Une énorme preuve de ça, c'est que toutes les applications de création ou presque demandent la permission d'utiliser ton travail afin d'entraîner leur IA. Ça, c'est limite. Parce que l'intelligence générative, ben, faut qu'elle parte de quelque chose pour créer quelque chose. Elle n'a pas de créativité en tant que telle. Elle est capable de copier. Ha! Copier. Ça, c'est peut-être le bon mot aussi.
La mort.
Et maintenant que j'ai chié sur le mot « générative », maintenant, on peut parler de Hollywood. Oui, je commence par le truc qui va fort probablement toucher le plus d'entre nous, en tout cas de ceux qui écoutent des films dans des VF, par exemple, le doublage. Et là, je vous parle du doublage tel qu'on le connaît, le doublage qui a bercé notre enfance.
« Tu protèges cette entrée comme si c'était le pucelage de ta sœur, OK, tonto? »
On apprenait les répliques par cœur, on connaissait le nom des doubleurs, les Français n'aimaient pas la VFQ, les Québécois n'aimaient pas la VFF. La belle époque, quoi.
Eh ben, puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer.
Très mauvaise nouvelle, je n'ai trouvé aucun indicateur qui me permettrait de dire que le doublage est un métier qui va survivre à l'IA. Aucun. Et ça, pour plusieurs raisons. La première raison, bien sûr, c'est l'argent. L'argent dans le cinéma, c'est le nerf de la guerre. Et si tu dois payer des doubleurs dans plusieurs langues pour doubler ton film dans une vingtaine de langues, un logiciel, ça coûte cher une fois. Oui, tu le payes une fois, puis après ça, ben, tu peux l'utiliser comme tu veux, quand tu veux, dans la langue que tu veux. Le doubleur, lui, tu dois le payer pour chaque film. C'est con. Le logiciel, je le répète, tu le payes une fois. Peut-être que ça te coûte cher une fois, mais tu le payes juste une fois. Et d'après vous, est-ce que l'argent, c'est un truc important pour les producteurs de cinéma? Je pense que oui. Est-ce que les producteurs vont avoir un dilemme moral à priver d'emploi des centaines d'acteurs internationaux qui gagnent leur vie grâce au doublage? Je pense que non. Et mon opinion sur le sujet est très simple. Je pense pas qu'une machine devrait remplacer le travail créatif d'un humain. Parce que derrière les bons doublages, il y a un bon travail d'acteur. Par contre, les producteurs, eux, sont très pragmatiques et vont penser mathématiques. Si c'est moins cher, c'est fort probablement meilleur. Et surtout, plusieurs d'entre vous vont dire « Ouais, mais le doublage par IA, t'as juste à regarder ce que YouTube fait, c'est de la merde. » Et vous avez raison, pour le moment, c'est de la merde. Le doublage de YouTube, c'est de la grosse merde. Mais c'est pour le moment. Parce que le problème est là, l'objectif d'un logiciel de doublage ne sera pas que de traduire le film, mais bien de jouer aussi sur les mouvements de bouche, etc., etc., pour que ce soit le plus réaliste possible. Ça va plus loin que le doublage, ça va influencer l'image de l'acteur. Et ça, par contre, vous voyez, il n'y a aucun indicateur qui me prouve qu'ils n'arriveront pas à faire ça dans les prochaines années. Et pour qu'il y ait une modification physique sur un acteur, comme dans ce cas-là, sa bouche, eh bien, c'est les acteurs qui vont devoir signer dans leur contrat, quand ils font un film, qu'ils acceptent qu'on modifie leur bouche. Ce que je suis en train de vous dire, là, c'est que c'est les Brad Pitt, Tom Cruise, Margot Robbie et Timothée Chalamet de ce monde qui décideront si le doublage survit. S'ils refusent tous qu'on modifie leur bouche, donc leur performance par conséquent, eh bien, ils n'auront pas le choix de continuer d'utiliser des doubleurs. S'ils acceptent, et Dieu sait que les salaires qu'on offre aux acteurs maintenant, c'est devenu vulgaire, eh bien, logiciel, bonjour. Si en plus, ils ont le sentiment que ça touche pas trop à leur performance d'acteur, le métier de doubleur va devenir compliqué.
Connaissez quelque chose pour nous?
Rien que des morts.
Et là, je vois tout de suite le contre-argument. Oui, mais en France, au Québec, en Belgique, dans les pays comme l'Allemagne, ils accepteront jamais que tous ces gens-là perdent leur emploi. C'est des sociétés socialistes. Ils vont vouloir protéger ces emplois-là. Oui. Et je suis presque sûr qu'ils vont essayer. Ils vont essayer. Ouais. Pour un moment. Le temps d'avoir l'air sérieux. Mais quand les compagnies de production françaises, québécoises, belges, allemandes, admettons, vont vouloir exporter un de leurs films à l'étranger, oui, parce que ça arrive aussi que des fois, on fait des films dans d'autres pays, puis on veut les envoyer dans d'autres pays. Eh ben, oui. Les producteurs français, québécois, allemands, belges, est-ce qu'ils vont payer pour le doublage ou ils vont s'acheter le logiciel? C'est une bonne question, ça, hein? Ben oui. Je pense que vous commencez à voir où je veux en venir avec ça, que vous commencez à voir le problème. Parce que même si dans certains pays, qu'on ne nommera pas, les gens font des films avec déjà l'argent des contribuables, d'autres producteurs de films, eux, espèrent faire du profit. Donc, il n'y a pas de petit profit. Et quand c'est le temps de commencer à vouloir sauver du fric, les gens ont tendance à avoir la morale très flexible. Et certains vous diront même, quand ça va arriver, parce que ça va arriver, qu'on défend le doublage par nostalgie. Exactement ce que je vous disais au début, quoi. Par nostalgie. Mais que l'IA, au-delà des pertes d'emplois, va créer d'autres emplois parce que ça va permettre de mondialiser le cinéma local. Oui. Le cinéma français s'exportera mieux grâce au doublage à l'IA. Même chose pour le cinéma de tous les autres pays. Ça va être plus facile à exporter parce que ça va avoir l'air d'un film tourné dans la langue où tu veux l'envoyer. Vous pouvez noter tout de suite que je vous ai donné cet argument-là parce qu'il va sortir un jour ou l'autre dans un argument. C'est la mondialisation du cinéma, quoi.
Essayez plutôt de causer à mes burnes.
En passant, l'IA, niveau des voix, a déjà été utilisée pour modifier l'accent de Adrien Brody dans The Brutalist. Aucun cinéphile s'en était rendu compte avant que le réalisateur du film en parle. Et c'était un film pour cinéphiles, hein? Moi, je l'ai vu, c'est long, il faut s'accrocher.
Être ou ne pas être? Ne pas être.
Donc la question, la véritable question, c'est combien de temps est-ce que le doublage tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'on l'a connu, va continuer d'exister avant que l'IA prenne la place, quoi. Perso, je leur donne entre 7 et 12 ans. Ouais. Si le gouvernement va se battre un peu, créer une petite résistance, mais à travers le temps, les années, etc., ça va s'essouffler la résistance et on va juste se faire à l'idée que ça n'existe plus. Un peu comme les répondeurs téléphoniques. Ça avait son utilité à une époque. Maintenant, ça n'existe plus.
Qui chiale sa race toute la journée? Voilà ce que t'es, connard!
Un métier qui sera encore plus affecté que celui des doubleurs, c'est clairement les créateurs d'effets numériques. Non, c'est pas le temps d'étudier en graphisme. En tout cas, pas pour faire du cinéma. Parce qu'eux, ils vont l'avoir dans le cul. Hein. Ils vont l'avoir dans le cul et ils vont l'avoir dans le cul à sec. Ça va faire mal.
Faudra qu'il fasse importer une tonne de pommade pour vous soulager de vos hémorroïdes.
Parce qu'à la chier qu'ils sont, ouais, regardez un générique là, de film, n'importe quel film qui sort avec des effets dedans, là. Regardez le générique de ça, là. Vous allez voir qu'il y en a une chier, et ça, ça coûte plus cher que des doubleurs, et ça prend du temps. Deux choses qu'Hollywood est incapable de supporter, que ça coûte cher et que ça prenne du temps. Parce qu'oubliez pas qu'une IA, là, ben, ça travaille 7 sur 7, 24 sur 24, 365 jours par année, c'est pas syndiqué et ça prend pas de pause pipi. Il y aura bien sûr, selon moi, encore des directeurs artistiques qui décideront de la direction artistique d'un film, mais ils seront accompagnés de prompteurs, de ceux qui écrivent des prompts. Oui, eux, ils manqueront jamais de travail. Et si vous vous dites que ça n'a pas existé encore, bien, Alien Romulus, la petite conversation avec Bilbo, là, le visage de Bilbo, c'est de l'IA. Oui, c'est de l'IA. Alien Romulus.
Mais ça fait quoi?
Du bleu.
Et là, vous vous demandez sûrement, oui, mais Steve, ça va prendre des prompteurs. Je viens de vous le dire que ça va prendre des prompteurs, OK? Oui, il y a encore des gens qui vont travailler là-dedans, mais est-ce que tu as besoin d'être créatif pour être prompteur? Ça, c'est une question intéressante aussi. Ou tu as juste besoin de savoir quoi donner à l'IA pour obtenir ce qu'on te demande d'obtenir? Est-ce qu'être prompteur, c'est un métier créatif? Pour le moment, j'en doute encore. Et encore une fois, je vous répète le concept de copier ce que les autres ont fait. Je dis ça, je dis rien, mais j'ai le sentiment qu'il va y avoir du trafic au bureau de chômage pour les spécialistes en texture numérique. Tiens, un autre film qu'a utilisé l'IA, The Creator. Vous vous souvenez de The Creator? Eh bien oui, l'équipe de production a utilisé des algorithmes de IA pour augmenter la qualité des arrière-plans et aussi pour améliorer la qualité des images qui étaient déjà en synthèse, pour les rendre plus réalistes. Ce qui fait en sorte que ça a pris moins de temps et moins d'employés. Parce que nous, en tant que spectateurs, là, pour le moment, au moment où je vous parle, on ne se rend pas forcément compte de la différence entre un film qui a utilisé de l'IA et un film qui utilise des effets numériques, du CGI. Mais un jour, j'ai le sentiment qu'on va s'en rendre compte. Et bien que j'ai chié sur des mauvais CGI, encore une fois, j'ai l'étrange sentiment qu'un jour, je vais chier sur de la très mauvaise IA.
Écoute, pourrieux, pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir.
Et maintenant, je vous parle des scénarios. Et là, je vous dis tout de suite, l'IA a déjà été et présentement utilisée et sera utilisée dans le futur pour créer des scénarios. Et comme dans tout, il y a des nuances. Est-ce que c'est un crime pour un scénariste d'utiliser l'IA afin d'analyser son scénario pour voir s'il n'y a pas des trous scénaristiques ou des plot holes? Je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Je pense pas non plus qu'Aaron Sorkin utilise ça, mais je pense pas que ce soit très grave non plus. Est-ce que c'est grave si un scénariste utilise l'IA afin de créer une scène pour cimenter l'exposition autour de son protagoniste principal? Ah là, ça commence à être d'autres choses. Parce que c'est ça. Là, c'est plus compliqué à juger ça. Est-ce que c'est grave si un scénariste utilise l'IA pour lui demander de créer une interprétation de « Bienvenue chez les Ch'tis » qui se passerait au Missouri, aux États-Unis, sans avoir la permission des créateurs originaux? Je pense que oui. Personnellement, je pense que là, on n'est plus dans une zone grise. C'est du vol. Et là, j'ai pris un exemple de film que presque tout le monde connaît, un des plus grands succès, sinon le plus grand succès de l'histoire au cinéma français. Vous le verriez peut-être tout de suite, vous, quand vous regarderiez ce film-là, mais c'est du vol. C'est Bienvenue chez les Ch'tis au Missouri. Mais il y a plein de films de plein de pays que vous connaissez pas, vous. Vous avez vu tous les films de tous les pays, là. Hein? Tous les films de tous les pays. Vous êtes capable de reconnaître leur plotline, leur structure, etc. Vous êtes capable de reconnaître ça, vous. Je suis impressionné. Et là, je vous parle même pas des films qui ont eu plus ou moins de succès, hein, qui pourraient voler carrément comme ça.
Drôle de maman pour faire de l'humour, l'autre femme.
Et si un scénariste demande à une IA de lui sortir une copie qui ne sera pas une copie d'un film, donc... Il demande juste à l'IA de copier l'arc narratif, le développement de personnages, le timing des scènes de combat, le timing des blagues, par exemple. Est-ce que c'est grave? Avant de répondre, je vous demande de penser à un truc, OK? La plupart de mon public est de la génération Vidéoclub, VHS, DVD, etc. Comme moi, vous l'avez vécu. Et si vous vous souvenez de cette époque-là, ben, vous vous souvenez aussi qu'il y avait beaucoup de films de série B qui étaient des copies de films populaires. Parce qu'on a tous connu Die Hard, mais aussi Die Hard à la montagne, Die Hard sur un porte-avions et Die Hard dans un avion. Donc, une autre question à se poser, est-ce que c'est plus grave quand c'est un être humain qui copie ou quand c'est une IA qui copie un être humain? Parce que des séries B qui copiaient des films connus, là, on en a vu plus que notre lot, hein? Copier le modèle d'un film qui marche, c'est pas vraiment nouveau pour Hollywood. Ça fait des années qu'ils font ça. Et en plus, maintenant, ils sont fanas de suites, reboots, remakes, etc. Donc, utiliser l'IA ou pas pour écrire le 11e Fast and the Furious, est-ce que ça va changer quelque chose?
Sulfateuse!
Et tant qu'à être dans l'idée, je vais aller au bout de l'idée pour peut-être la rendre la plus ridicule possible, mais en tout cas, je vais aller au bout de l'idée, OK? Imaginez un producteur qui décide, moi, je n'ai pas besoin de scénariste. Je vais engager un prompteur qui, lui, va me sortir un scénario qui sera une copie de Predator, mon film préféré de tous les temps. On coupe l'intermédiaire, plus de scénariste chiant qui arrive avec sa vision de son histoire. Moralement, ça, c'est dégueulasse. Hein? Le producteur est clairement une petite pute. Mais est-ce que c'est illégal? Non. En tout cas, je pense pas que ce soit illégal. Et est-ce que ça va finir par arriver? Ben, je pense que oui. Je pense même que c'est inévitable. Un jour ou l'autre, on va voir des films écrits par une IA parce que ça coûte moins cher qu'engager un scénariste ou d'acheter le scénario d'un scénariste. Ce qui m'amène à une autre question. Est-ce qu'on doit recevoir un avertissement quand on regarde un film, au début du film, que ce film-là comprend de l'IA, a été écrit par de l'IA? Je pense que oui. Je pense que ça serait normal qu'on nous dise que le contenu qu'on regarde présentement a été créé par une intelligence artificielle. Je sais pas ce que vous, vous en pensez, mais moi, je pense que oui. Là.
C'est vraiment un gros tas de merde.
Et pour finir cette merveilleuse vidéo, j'ai envie de vous parler du truc qui risque de m'énerver le plus, personnellement. Et c'est super simple. Plus personne va jamais mourir. On l'avait déjà vu dans Rogue One, si vous vous souvenez. Princesse Léa de 22 ans. Tarkin. Oui, Tarkin était là aussi, oui. Est-ce que ça me donnait le sentiment de regarder des cadavres parce qu'il n'y avait pas de vie dans leurs yeux? Oui, mais le problème, c'est que ça va encore une fois s'améliorer, ces trucs-là. Fait que dans quelques années, peut-être qu'ils vont arriver à un point où ça ne me donnera plus ce sentiment-là, cette envie-là de me mettre deux doigts dans la gorge pour me faire vomir. Et Disney est déjà là-dessus depuis longtemps, là. Oubliez pas non plus le Indiana Jones qui commence avec un Indiana Jones de 35 ans ou le Mandalorian qui a un Luke Skywalker de 28 ans. Ouais. Donc, on rajeunit tout le monde. Et il n'y a pas que Disney qui pense que c'est une bonne idée. The Irishman, eh oui, un film de Martin Scorsese, rajeunit Al Pacino, Robert De Niro pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Un interminable film. Mais bon, c'est pas la question, la durée du film. C'est plus le fait que Robert De Niro, t'as beau lui mettre sa face de gars de 35 ans, il marche encore comme un gars de son âge. Et il parle encore comme un gars de son âge. Et encore là, ça aussi, ils vont l'améliorer. Parce que ça ne peut que s'améliorer. Vous pensez vraiment que Paul Walker va jamais revenir dans un film Fast and the Furious? Vous pensez vraiment qu'il va jamais revenir? Même s'il est mort, là. Vous pensez qu'ils vont pas le faire revenir un jour? Vous pensez vraiment que Disney a pas l'intention de faire une série Luke Skywalker à 28 ans un jour ou l'autre? Là? Vous êtes sûr de ça? Là? Et ça peut aller plus loin que ça, et c'est là où ça devient compliqué. Parce que maintenant, admettons, moi, là, je veux faire un film sur la course automobile. Et je me dis, pourquoi pas prendre Vin Diesel? Avec qui est-ce que Vin Diesel pourrait avoir l'air cool à l'écran? Ben, on va prendre Steve McQueen et on va faire Bullet 2, le retour de Bullet. Si la famille de Steve McQueen signe en bas pour dire « c'est beau, vous utilisez son image », ils vont le faire. Ils vont le faire parce qu'ils pourront le faire et parce qu'ils pensent qu'ils vont faire du fric avec ça. On aura peut-être un Top Gun un jour, 15 ans après que Tom Cruise soit mort, avec Tom Cruise dedans. On est rendu là. Parce que de toute façon, on n'a plus vraiment de stars de cinéma. Et les vrais stars de cinéma sont presque tous morts. Donc, on va les ramener à la vie. C'est tout à fait logique. Et on a la technologie, grâce à l'IA maintenant, de les ramener à la vie. Et les familles de ces gens-là, ils aiment le pognon comme tout le monde. Hein? Et ça, je vous avoue, ça m'énerve. Parce que ça empêche de renouveler les choses. Et ça m'a fait penser trop longtemps à trop de trucs que je veux pas voir. Comme par exemple un retour vers le futur 4 avec Michael J. Fox, mais que ce coup-là a 22 ans parce qu'il a été créé par l'intelligence artificielle générative. Vous avez qu'à penser à tous les Terminators où ils remettent un Arnold plus jeune dedans. Vous trouvez ça bon? Vous trouvez ça beau? Non. Est-ce que ça va s'améliorer au point de nous faire peur? Oui. Est-ce qu'un jour, on va avoir un film avec Audrey Hepburn et Brad Pitt dans une comédie romantique? Peut-être. Je sais pas. Moi, je vois pas l'avenir, mais je sais que ces gens-là pensent qu'à une chose, l'argent. Et s'ils pensent qu'ils peuvent faire de l'argent avec une comédie romantique mettant en scène Audrey Hepburn et Brad Pitt, ben ils vont tout faire pour essayer de le faire. Puis en plus, ils vont nous vendre ça comme un avancement technologique. Ils vont dire qu'ils ont scanné tous les films de Brad Pitt, tous les films d'Audrey Hepburn, et qu'ils vont réussir à les intégrer dans le film à 24 ans chacun, dans le New York des temps modernes. Ils vont être capables de faire ça. Et si les gens se déplacent pour aller voir ça au cinéma, ils vont le faire plus qu'une fois. Il y aura comme plus de limites. Les seules limites seront les limites légales. Parce que si vous attendez à ce que Hollywood se mette des limites morales, vous attendez pour rien. Non, leur modèle d'affaires n'est pas moral du tout. Donc, attendez pas à ce que ce soit eux qui se mettent des barrières morales. Ça n'arrivera pas. Et pour conclure sur l'IA en général, je pense que dans plusieurs parties de nos vies, ça va nous aider énormément. Je pense qu'il va y avoir un remodelage de la société énorme dans les 20-25 prochaines années, qui va faire en sorte qu'on va peut-être voir le cinéma comme... Ouais, ben c'est mineur ce qui se passe dans le monde du cinéma comparé à la médecine, comparé à tout ce qui est administratif, à tout ce qui est programmation. Donc, les changements qui seront dans le cinéma, on va faire comme... C'est le dernier de nos problèmes, quoi. Bon, en fin de compte, moi, j'espère qu'on va garder nos doubleurs comme on a présentement. Mais je sais très bien que ça va changer, que je le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non, ça va changer. Comme plein de choses qui ont changé dans nos vies. J'espère que tous les programmeurs d'effets numériques qui ont fait des études pour travailler là-dedans, qui ont bossé comme des malades dans des boîtes, vont garder leur boulot à long terme là-dedans. Mais je sais très bien que c'est pas ça qui vont arriver. Progressivement, ils seront remplacés par une intelligence artificielle générative. Ils auront bossé pendant des années pour former l'intelligence artificielle qui va prendre leur place. Puis j'aimerais vous dire que j'espère qu'il n'y aura jamais de scénario écrit par une intelligence artificielle, mais c'est déjà le cas. Je suis sûr que j'ai déjà vu des films qui ont été influencés par l'intelligence artificielle au niveau du scénario et de l'histoire. Puis j'aimerais ça encore une fois vous dire qu'il n'y aura pas des acteurs qui vont revenir des morts pour faire des apparitions dans des films, mais je suis pas con non plus. Je sais qu'il y a de l'argent à faire avec ça et qu'ils vont le faire. Puis ça, ben, c'est la fin de Dimanche Navet.